vattnet, elektriciteten går genom hjärnan. Hjärt eller skär genom nervsystemet, kroppen skakar till och allt. Rätten att ta deras liv, använda deras liv till sin forskning. Vill de med skit för att mota vårt cancer, utan vi ser på där de mördar djuren. I'm a liberation. Alla ju försök är mot. Man kan använda ansträngningar istället för djur. Inga jävla smigrus, jag ska mörda för djur, för att folk ska kunna använda deras skit. I'm a liberation. Alla ju försök är mot. Försök är mot.
Allez, salut. Eh ben, c'est... Ah, attends. Attends, pourquoi ça commence? Ouais, pourtant, je l'avais enlevé, le truc. Bon, ça, c'est ma spécialité. Alors, hop. Donc, vous êtes bien sur les 92.2 MHz de Canal Sud. Et c'est l'émission Avis d'ordure qui commence. Et on a des invités. Et comment on fait? On va faire les...
Bonsoir.
Ouais, bonsoir,
bonsoir les invités.
Bonsoir.
Ouais, ok.
Bonjour.
Ouais, vous voulez dire quel groupe vous êtes?
On est Trolls.
Ouais. Ouais, c'est trop classe, donc on est...
Il y a combien de Z alors? Il y en a
qu'un seul, malheureusement.
Il y a qu'un Z. Mais il se suffit à lui-même, peut-être, oh, le Z. Oui. Ouais, donc peut-être que vous pouvez vous présenter déjà, juste pour qu'on puisse retenir les prénoms. Et on va faire un premier tour de table, comme on dit,
dans les vrais
colloques professionnels.
Bonsoir. Alors, moi, c'est Bonsoir. Doudoune. Ouais. Je suis la chanteuse du groupe.
Ouais. Moi, c'est Claire, tout simplement, et je pratique la basse.
Moi, c'est Sandra, et je joue de la batterie.
Moi, c'est Ziggy, et je fais la guitare.
Et c'est tout.
Et Pruno n'est pas venu, alors.
Non, le Pruno n'est pas venu.
Pruno n'est pas venu, Simon n'est pas venu. On a plein de dédicaces.
Il y a plein de monde avec toi. Nous soutiennent, ouais. Dans les studios, c'est le principal, quoi. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que le dernier interview qu'on a fait, en fait, c'était la Radical Kitten. Et pour un peu connaître le mood du moment, un peu leur humeur du moment, on leur a passé des sons de chat, tu vois.
Okay.
Alors, donc ça leur a permis de se dire, ah bah on est plus ça, tu vois, en fonction de son de chat. Alors voilà, nous, on a fait pareil avec les trolls, donc on va vous faire entendre des sons de trolls.
Ah ouais.
Alors moi je maîtrise pas bien le troll, faudra peut-être un peu aussi nous expliquer, quoi. Okay. Donc on va écouter trois sons de troll qui correspondent un peu à des, à des moods, et ça nous permettra de savoir un peu dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, quoi. Et en général.
Ok, on ouvre les oreilles.
Alors attention.
Allez, donc, alors, attention. Premier son de troll.
Bon là, voilà. Là vite fait, j'ai envie de dire que c'est en mode vénère guerrière un peu.
Ouais. J'attends de voir les autres pour faire un choix.
Un vrai jugement. Donc le deuxième, donc pareil, je suis pas sûr de la traduction, mon petit dictionnaire franco-troll, troll c'était pas... pas super au point. Donc le deuxième, bah, vas-y, balance.
Allez.
Alors il y a beaucoup de différences, évidemment, parce que le troll, c'est une langue subtile quand même, hein, j'ai remarqué. Ouais.
Il y a des accents.
Il y a des trémas. Ogundesh Margamish.
Morgshimish. Kolukdor. Chazilish Asadur.
Lui, c'est un troll bourgeois. Lui, il parle assez. Lui, c'est le troll de Macron. Attention, on va changer la couleur du drapeau.
Alors, je l'ai nommé, moi, un peu contemplatif, genre un peu pensif et poétique.
Ah. Je trouvais un peu plus menaçant. Tu vois, dans le premier, il était en mode je parle et ensuite j'éclate tout le monde. Ouais. Et celui-là était vraiment en mode je vous menace, mais je ne fais rien. C'est menaçant.
Mais c'est quand même menaçant. Quoi.
C'est menaçant.
C'est un mec cis bourré qui veut se battre.
Ouais,
il menace, mais il fait rien.
Tout à fait.
Donc rien à voir avec ni la poésie, ni la pensée, encore moins la contemplation. Je sais pas.
Contemplation, peut-être. Là, tout de suite, je voyais plus un peu de violence, actuellement.
Et le troisième extrait donc de La pensée trolls, pareil, tout en subtilité, en nuance. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette volonté de se contenir. Tu sais, mais ça pète. Tu vois, il y a quand même au bout d'un moment. Je sais pas si c'est un peu vous ça, mais.
Ou se contenir, la volonté de se contenir.
Mais non, pas trop. La volonté.
Comment ?
La volonté, en tout cas. Mais
de
t'as
se
vu ? Ouais. Mais d'un coup, en fait, t'y arrives pas et puis ça explose. Et ça, c'est ce qu'on perçoit un peu dans le son des trolls, quoi.
C'est vrai. Après, la volonté de se contenir, peut-être pas, des fois. Franchement, si on avait eu la volonté de se contenir, je pense qu'on n'aurait pas fait ça.
Bah, en tout
peut-être
cas...
au début, ouais.
Ouais, au début, peut-être. Ouais.
Au début, quand on osait moins.
Ouais.
Et après, on a pété un plomb et ça y est.
Voilà, c'est 4 ans de trolls...
Ouais,
résumé.
Attends, c'est bon, vas-y, on peut t'arrêter.
Donc le troisième son, moi je l'ai nommé tout à fait par hasard, fataliste et désabusé.
C'est parfait,
c'est ça.
Super,
alors,
ouais.
Alors, ouais. Vous êtes plutôt dans quel mood alors en ce moment?
Fataliste ou désabusé, ou ouais. Plus de choix?
Il y avait vénère aussi.
Il y avait vénère, ouais. C'est un peu au choix ou c'est un peu tout en même temps.
C'est un peu la carte, quoi. Mais
bah plutôt vénère quand même, non?
Ouais. Okay. Mais en vrai, moi je suis entre vénère et fataliste, en fait, parce que tu étais là en mode, ah, j'en ai marre. Et après tu dis, mais vas-y, j'en ai rien les fesses de me battre contre des trucs qui changent pas. Du coup, ben, on va osciller peut-être entre les deux, quoi.
Bah, les deux s'alimentent un peu.
Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que t'es vénère, t'abandonnes un peu, tu dis, vas-y quand même. Et après t'es revénère.
Ouais, ça nourrit ta vénéritude, en fait.
Ça nourrit la haine, exactement.
Ça nourrit la haine. Donc le troll, c'est une langue, une jolie langue, en tout cas. Hein. Vraiment.
Incroyable.
On ne connaît pas trop. Mais...
c'est vraiment inattendu. Hein.
Alors maintenant qu'on voilà, on a un peu, je dirais, la doxa, j'aimerais connaître votre définition de la monstruosité, puisque vous nommez trolls.
La monstruosité.
Ouais.
Je sais pas. Après, pour le coup, quand on s'est appelé trolls, c'était pas par rapport à des trolls.
Pas du tout.
On s'est juste dit, après coup, que c'était cool de pouvoir expliquer à nos parents que on s'appelait trolls par rapport à des trolls, même aux gens à qui on n'avait pas envie d'expliquer vraiment pourquoi c'était trolls. Du coup, c'était plutôt pratique, sans qu'on le sache, quand on l'a vraiment choisi. Après coup, on s'est rendu compte que c'était pratique qu'on s'appelle trolls. Après, la monstruosité... j'ai plein de noms de personnes qui me viennent en tête. Mais bon,
C'est quoi ? C'est quoi un monstre ? C'est...
Puis ça peut être bien et pas bien aussi.
Bah ouais, carrément, ça peut se rapproprier aussi, ouais, peut-être. On peut se considérer l'image, le symbole du monstre.
Bah, j'imagine qu'on est forcément le monstre de quelqu'un.
Ouais.
Mais je sais pas. Hein. Enfin, moi, perso, le monstre, c'est genre... Je sais pas, tu vois, par exemple, quand mon frère... Il prenait le lait, tu sais, dans le frigo, mais qu'il le remettait alors qu'il restait ça de lait, tu vois.
Ouais.
Mais là, pour moi, c'était monstrueux, tu vois. J'étais en mode, là, c'est... Franchement, Théo, si tu m'écoutes, c'est pas fair play. Mais en même temps, ça peut aussi être vraiment quelque chose de beaucoup plus grave. Donc j'imagine que l'échelle du monstre, c'est assez global et tu peux en faire plein de choses. Donc ça peut être le grand frère qui te laisse que ça de lait dans la bouteille et vraiment la personne qui a fait un truc terrible, quoi.
Oui, parce que le monstre, c'est, ça peut être aussi, se dissimule aussi derrière des beaux habits, mmh, des beaux sentiments.
Oui, on a tous, toutes des monstres aussi à... dont mmh, on essaye de s'affranchir, je pense. Mmh. Donc, la monstruosité, au final, elle est peut-être un peu partout autour de nous. Je ne sais rien.
T'es très pessimiste, mais pourquoi pas? En même temps, c'est, je pense que t'as pas tort, hein, franchement. Moi aussi, je laissais que le fond du lait à mon frère. Donc,
ouais. Puis il y a des moments où t'aimes bien être monstrueuse. Moi, j'adore être monstrueuse dans certains moments. Regarder quelqu'un comme si j'allais le tuer, lui faire peur et changer de trou. J'adore faire ça. Enfin, ça dépend pour qui, hein, mais...
Oui, bien sûr.
Je sais pas, moi, j'aime bien être un monstre puissant. C'est cool. Un peu viriliste, peut-être, mais c'est cool.
Ouais, moi, la notion de monstre, je la prends un peu comme ça aussi, enfin, d'une manière positive. Positive. Enfin, j'essaye un peu de me la réapproprier... Enfin, pour moi, le monstre, c'est oser se montrer. C'est oser aussi peut-être révéler des parties de soi qu'on cache d'habitude et qui sont considérées pas belles ou pas acceptables pour les autres. Du coup, ouais, moi, le monstre, j'essaie de l'approcher comme ça.
tu révèles le monstre en toi, quoi.
Oui. Après, le monstre, je pense, c'est quelque chose qui est construit par les autres et par le regard des autres. Ouais. Donc,
Belle définition, en tout cas.
Ouais, belle conclusion.
Maintenant qu'on on a un petit peu plus cerné ce qui était votre définition, je dirais, globale du monstre, on va un peu définir votre son en écoutant un premier morceau. Ça, super enchaînement, vous avez vu. De Troll, ça permettra de se plonger un peu dans l'univers du groupe.
Allez, vous allez reconnaître, dites-moi. C'est du live.
C'est du live.
Et c'était morceau Brother de Trolls.
À la Cavarock.
À la Cavarock, c'était, ouais.
D'ailleurs, Brother, tu peux expliquer un peu le sens des paroles? J'ai pas trop saisi.
C'était une chanson que j'avais commencé à écrire quand j'étais un peu petite. J'avais genre 13-14 ans. Et, Et en fait, elle avait pas forcément, enfin, je lui avais pas forcément accordé plus de sens qu'un truc que j'avais eu envie d'écrire dans un moment où je me sentais pas trop bien par rapport à des trucs à la maison qui se passaient pas forcément bien des fois et tout. Et puis c'est après que j'ai trouvé plus de sens, mais je pense que ça a été ça pour plein de sons qu'on a fait, qu'on a commencé à composer quand on était plus jeune. Et au fur et à mesure que nos idéologies politiques se sont construites, on s'est rendu compte qu'il y avait vachement de sens. Enfin, plus de sens que ce qu'on y pensait dans plein de textes ou plein de compos qu'on avait faites. Et là, effectivement, je pense que ça aborde un certain aspect du patriarcat dont on parle pas forcément souvent dans notre travail, en tout cas, sauf dans ce son-là. Et c'est le regard un peu paternel sur le fils, sur le plus grand des fils. Et c'est aussi la relation des autres enfants qui gravitent autour de celle-ci aussi beaucoup, et c'est un truc qu'on trouve dans pas mal de foyers.
Il y a une idée de départ ou pas ? Parce que c'est un peu ce que moi j'ai perçu à travers ce texte, que le grand frère, semble-t-il, avec le poids de peut-être ce que ça peut représenter, part en tout cas, ou quitte. J'arrive pas à comprendre si c'est un départ genre symbolique, réel, il part en prison, il meurt, en tout cas, j'ai pas réussi vraiment à interpréter. Moi j'ai pensé à la prison, tu vois, étrangement.
Ouais. C'est un vrai départ pour le coup, et c'était ce truc en fait où aussi je pense, il y a des situations en fait que j'ai vu moi dans mon cercle familial, mais que j'ai vu dans plein de cercles familiaux autour de moi, où il y a un moment où il y a le fils qui s'en va parce que je sais pas, il y a des soucis à la maison, il y a des soucis à l'école, il y a des trucs, et où c'est une réponse en fait qu'il peut choisir de prendre. Enfin, c'est une décision qu'il peut prendre, qu'il a le droit de prendre, dans un sens. Et je pense qu'il y avait aussi une idée un peu de jalousie mal placée, où moi, personnellement, il y a eu plein de moments où j'aurais eu envie de partir, mais où c'était juste pas possible. Et je pense aussi, de par mon statut social de meuf, qui s'inscrit aussi dans les schémas familiaux qui nous entourent, quoi.
C'est vrai que, enfin, la famille, c'est hyper présent dans tes textes, en fait. Truc qui te questionne et qui te porte, quoi.
Ouais, après, j'ai toujours un peu écrit de manière thérapeutique sur le moment, sans trop réfléchir. Et c'est vrai que ma famille, j'ai 5 frères et sœurs et mes parents, et c'est les personnes les plus importantes de ma vie. Mmh. Et ce sera toujours le cas, jusqu'à ma mort, en fait. Et donc, je pense que je me suis déjà posé la question de pourquoi ça revenait aussi souvent, mais naturellement, en fait, je pense que c'est un des sujets sur lesquels j'aime beaucoup écrire, mais parce que j'aime beaucoup en fait leur accorder de la réflexion aux relations qu'on entretient, parce que c'est les plus importantes pour moi. Et il y a aussi, je pense, cette idée de famille avec le groupe aussi, qui est assez importante, une espèce de famille annexe qu'on se choisit aussi, qu'on s'est construite ensemble, et aussi avec Isor quand elle était dans le groupe, où c'était un lieu dans lequel on avait besoin de parler de certaines choses, de vivre certaines choses, et on... Si on ne le trouvait pas dans notre cercle familial, on s'est créé un endroit où on pouvait le trouver avec le groupe.
Pourquoi vous êtes venu à faire un groupe punk, en fait ? Parce que ce n'est pas si évident que ça, enfin, je veux dire. Pourquoi d'un coup l'envie de prendre des instruments, faire du bruit, alors qu'il y a d'autres moyens d'expression ?
À la base, on était 3 meilleurs potes qui faisaient toutes un instrument. Enfin, Zitoun, tu chantais, moi je faisais de la gratte et Isor faisait de la batterie. Puis
mais que
c'était
faire
il y a longtemps, on était en première,
en seconde
peut-être même. Et on écoutait tout un peu du punk dans notre coin. On s'est fait découvrir plein
métal.
De sons et du métal. C'est pas mal de métal, mais on se faisait découvrir des groupes. Enfin, c'était le début quand tu commences à découvrir plein de groupes trop chouettes et que t'es au lycée, donc t'as des gens avec qui en parler, alors qu'avant t'es au collège et que t'as pas de gens avec qui parler.
Tu parles à personne au collège d'ailleurs.
Et le groupe, on l'a créé après avoir trouvé le nom.
Non, c'est quand t'avais vu le concert du lycée en seconde.
Ah oui, c'est ça.
Et après, tu t'étais dit, venez, on fait le concert du lycée. Et à la base, c'était juste pour faire le concert du lycée.
Pour s'incruster.
Tous les ans, il y avait le concert du lycée. Et je trouvais ça trop cool.
Non, t'es trop chouette.
Non, mais c'est vrai. T'as plein de gens que tu vois tous les jours qui ont leur petit groupe et qui font leur petit.
Big up le lycée des Arènes, merci de
vous. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire un groupe nous aussi, parce que on faisait toutes les trois de la musique. En plus, on savait jouer, mais pas de ouf. En
vrai, on jouait pas forcément le punk.
Ouais.
Ouais,
c'était même pas du punk, il n'y avait même pas de style prédéfini ou quoi.
Nous, à la base, on s'était dit qu'on voulait faire de tout. On voulait faire du heavy metal, on voulait faire du punk hardcore, on voulait faire tout et n'importe quoi.
Tout et n'importe quoi, et du coup, on répétait au début dans le gymnase du lycée.
Ouais.
C'était une cata. Et du coup, on a fait notre premier concert en ayant répété dans ce gymnase. Et en fait, c'était trop chouette. Et du coup, on a commencé à répéter dans un studio l'année d'après, quoi. À Trois Cocus. Après, on a refait le concert du lycée. Et puis après, on a joué à la Cabaroque. Voilà. C'est le début.
L'entretemps, il y a eu plein de péripéties.
Oui, des membres qui ont changé, plein de choses. Les textes qu'on écrivait, les reprises qu'on faisait. Nous, on a décidé de plus faire de reprises de groupes de Mexis. Au début, on a repris Nirvana, par exemple, le premier concert. Il y a plein de raisons qui font qu'on reprenne plus Nirvana, mais ça en fait partie aussi. Et enfin, bref, voilà quoi.
Ouais, on a découvert le mouvement Riot Girl après avoir décidé de commencer à faire de la musique. Et je pense qu'on s'est vite rendu compte, parce que peut-être on était un peu dans l'innocence d'une personne de 15 ans. On s'était pas posé la question de se dire « Ah, mais on est un groupe que de meufs. Est-ce que ça va pas poser souci? Est-ce qu'on va pas un peu se foutre de notre gueule? Est-ce qu'on va pas juste pas nous prendre au sérieux du tout ?» Et c'est en découvrant que, si, en fait, c'était beaucoup plus dur étant des meufs. Et du coup, on a découvert le mouvement Riot Girl, parce qu'à Noël, Ziggy m'avait offert Riot Girl, l'histoire d'un mouvement punk féministe de Manon Labrie. Le bouquin. Et on l'a toutes lues, en fait, et on s'est découvert... on s'est dit que c'était ça qu'on voulait faire, quoi.
Même des modèles, tu sais, tu te représentes vachement mieux quand tu vois que c'est ça que t'as envie de faire et qu'il y a des gens qui l'ont fait et que c'est possible. Et voilà.
Donc le côté effet exemplaire fonctionne réellement. C'est-à-dire, c'est comme dans la chanson de Bikini Kill, quoi, sur Rebel Girl. C'est ça, t'as une espèce d'exemple. Tu deviens à un moment, toi, aussi l'exemple. C'est un peu ce que vous devenez. Vous-même... Non, je parle pas de Bikini Kill. Enfin, on peut, je dis ça. Non, mais d'un coup, d'être... de se transformer en exemple, quelque part. Vous pensez de plus en plus à ce que pour présenter le groupe, aux idées qu'il diffuse.
Ouais, je pense qu'on s'est juste vite rendu compte que on pouvait pas faire uniquement de la musique, de toute façon, et que en fait, on n'en avait pas envie. On n'avait pas envie de faire que de la musique. On avait envie que la musique qu'on faisait et que l'exutoire que c'était pour nous de répéter dans un gymnase ou dans un studio à Trois Cocus toutes les semaines, on voulait que ça crée autre chose que quelque chose qu'on entend, en fait, je pense. Et on s'est vachement regroupés autour de ça, et ça nous a fait beaucoup de bien dans plein de moments de notre vie. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on faisait pas que de la musique, qu'à chaque fois que Ziggy a branché sa guitare, Claire sa basse, que Sandra prenait ses baguettes et moi que j'ai chanté dans un micro, on luttait, en fait. On participait à un mouvement de lutte.
Ouais, et puis c'est des moments aussi... magique que tu viens de décrire, d'allumer les amplis aussi. Enfin, tu vois, d'un coup, ça crée un truc, une intensité militante, quoi. Et porteuse d'idées, voire de révolution, quand tu lis un peu le texte, tu sais, du mouvement Riot Girl, qui parle un petit peu de ça, quoi. Et juste pour revenir, sur votre Bandcamp, vous faites du Teenage Riot Girl. Et ça m'a un peu surpris, parce que je trouve que... le mot teenage, alors c'est aussi la réalité de vos âges, on va peut-être un peu en parler.
Oui, oui.
Ouais, mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi se protéger par, tu sais, cette définition qui permet de se mettre peut-être un peu en retrait et d'être un peu comme des sales gosses, tu sais, et de jouer sur un mode un peu provoque, alors que vous aspirez aussi prise au sérieux, être vénère, dangereuse, radicale. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petit truc, de petit paradoxe là-dedans, quoi? D'ambiguïté, quoi.
Ouais,
je vous conseille de le virer.
Ça nous a été compliqué de... enfin,
d'assumer ça, quoi.
Ouais, c'est encore compliqué des fois de se dire... enfin, moi, ça fait pas longtemps, perso, je sais pas vous, mais que je me présente, des fois, on me dit « Tu fais quoi dans la vie ?» des fois je me présente en me disant ouais je chante dans un groupe de punk et je fais apparaître ça en premier parce que c'est une de mes activités c'est une des activités que j'aime le plus dans ma vie de toute façon et en fait c'est compliqué de se prendre au sérieux et de se dire ouais je suis musicienne et du coup je pense que c'est peut-être un rapport avec ça aussi
Je pensais aussi que quand tu dis ouais je suis dans un groupe de punk et que t'as ma tronche ou juste non mais arrête, je te jure, enfin c'est que tu dis ouais moi je suis bassiste, je suis dans un groupe de punk machin, enfin directement c'est vas-y mais donne-moi trois groupes de référence, tu joues avec quelle basse, est-ce que t'as déjà pété une corde en concert et est-ce que tu joues avec un millier de tours avec tes doigts. Frère, c'est pas un entretien d'embrouche, donc c'est bon. Du coup, bah, je pense que aussi se cacher derrière ce truc de « Ah, on fait du teenage, machin, oui. Ah oui, je suis dans un groupe. » Enfin, pas forcément s'il y a les machins. Enfin, ça dédouane et ça évite ce genre d'affrontement. Parce que quand tu dis que tu es fort dans quelque chose et que tu es à fond dans ce truc-là, enfin, et que t'es autre chose qu'un homme cis, eh ben, on te demande des comptes.
Tu dois passer un test.
On te demande des comptes et on nous demande toujours, tout le temps, quel que soit... nos musiques, parce que je trouve que quand même elles ont évolué entre il y a 3 ans et maintenant, genre nos textes, nos intentions, ça a tout à fait évolué et j'ai l'impression que c'est moins teenage voilà.
Puisqu'on a évolué avec aussi.
C'est ça, on a grandi avec, on a vécu des trucs, on a grandi quoi, point. Mais du coup, ça reste, enfin là maintenant, on peut plus trop s'enfuir quoi. Parce que quand, parce que quand, quand quelqu'un écoute nos nouveaux sons, genre Maman est morte, enfin, c'est des sons qui sont... Enfin, tu vois, c'est un son, tu peux pas dire « Ouais, lol !» Non, tu peux pas te cacher, t'as fait ça, et tu dois le porter, le truc. Et du coup, ben, tu dois assumer toutes les répercussions qu'il y a derrière, en fait. Des gens qui te prennent... Enfin, il faut que les gens te prennent au sérieux. Sauf que, comme ils nous prennent pas au sérieux, il faut qu'on se batte. Enfin, bref. Du coup, on peut se planquer, mais plus trop longtemps. On peut encore un peu gratter. Mais je pense que là, bientôt, ça te la dé un peu. Mais... Ouais, on va le faire, on va assumer.
Surtout si vous voulez faire de ce groupe un truc important pour vous déjà, ça qui est le plus important qu'il y a de le dire pour vous dans vos vies, pour votre équilibre, etc. Quoi. D'ailleurs, je pense à Kravoka, là, juste deux secondes.
Coup les copains.
ouais. Et je voulais savoir si vous pensiez de ce modèle, je dirais, d'entertainment quelque part. Alors je parle pas au niveau ni goût musicaux ni d'affect par rapport à Kravoka évidemment, d'autant que vous les connaissez, etc. quoi. Mais le fait d'y consacrer pleinement son temps. Là tu disais que c'est ce que tu kiffes le plus faire. Quelle part en fait les Trolls ont comme charge mentale pour vous en fait. C'est-à-dire vous êtes 100% de votre temps là-dedans, tu vois. Je pense à Kravoka, dans le film, film, à un moment, ils se prennent un peu la tête par rapport à ça, que c'est hyper intéressant sur ce truc de t'en as pas marre de bouffer ça, de penser qu'à ça, quoi.
Bah, en fait, tu nous poses cette question au moment où le groupe il est en total changement. Enfin, on est vraiment au tout début de quelque chose de tout nouveau.
C'est une question qu'on se pose aussi.
C'est une question qu'on se pose actuellement, en fait. Du coup, là, j'avoue que actuellement, je pense qu'on a toutes envie de mettre un peu, déjà plus. Ouais. Déjà plus. On n'est pas en train de parler encore d'un truc à temps complet, mais déjà, on a tous envie de faire des trucs plus sérieux et d'y prendre beaucoup plus de temps. Mais en fait, faut travailler.
Il y a une réalité matérielle derrière.
C'est ça, genre,
on est encore étudiant, ton travail, machin.
Voilà, du coup, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté, je peux parler pour tout le monde, de faire vraiment, d'aller dans... Enfin, on veut pas, ça va pas lâcher, quoi. Et ça, on veut vraiment... de plus en plus y aller dans quelque chose de pro et de enfin qui nous prennent tout notre temps parce que nous on a envie d'y mettre ce temps quoi.
Ah moi il me faut rêver hein.
Ah mais moi aussi je veux que j'ai hâte. C'est cool ouais, c'est qu'on peut en parler avec eux et que ils font partie des rares hommes cis à qui on demande vraiment conseil des fois et c'est bien des fois hein. Mais du coup en fait quand on a regardé
c'est
leur
pour
film
le quota,
quand on avait regardé leur film c'était au festival de Foix et en fait on allait le voir après en mode mais les gars nous on veut faire ça en fait, nous c'est ça qu'on veut faire,
c'est ça, exactement.
Et on se l'est dit collectivement et puis même après quand Sandra nous a rejoint et tout on se l'est dit en fait c'est ça qu'on veut faire et on a mis du temps à se prendre au sérieux au point de se dire ok je vais mettre ça de côté parce que là faut répéter 6 heures pour composer à fond puis après faut enregistrer le truc machin et maintenant que je pense on se prend plus au sérieux aussi qu'on a plus en confiance. On est plus en confiance avec nous-mêmes, avec la musique qu'on fait. Ce sera plus simple.
On a plus des discussions de, j'allais dire, de daron de la musique. C'est genre, moi, tu sais, avant, en répétition, genre, on s'asseyait 20 minutes, on potinait entre nous comme les copines que nous sommes. Et après, on allait jouer de la musique un peu. Mais en fait, on faisait des répètes pour les concerts, quoi.
Ouais.
Et là, maintenant, on a vraiment... On, on, on discute en répétition de quelle image on veut faire avec ça.
Tu vois, ah ouais, vous réfléchissez.
C'est ça, on voudrait faire une ligne en fait.
Au détail.
Ouais, c'est ça, on voudrait faire une ligne en fait. Genre que nos sons ils soient plus aussi éparpillés. Qu'il y ait plus. Enfin, on voudrait faire quelque chose d'un peu plus précis, d'un peu plus carré.
Cohérent.
Un peu plus cohérent, c'est ça. Et du coup, déjà, en tout cas, c'est en cours et moi j'ai juste trop hâte. J'attends que ça, moi. Genre,
Et vous êtes toutes sur la même ligne, en fait.
Oui, carrément. Revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de se concentrer à 100% ou pas au fait de faire la musique, moi je m'imagine trop pas avoir un mode de vie où je vais au taf la journée et juste je fais de la musique le samedi. C'est un truc secondaire. C'est un moyen d'expression qui est, je pense, tellement important pour nous tous que. Qu'on peut pas juste laisser ça de côté et en mode hobby.
Non, c'est pas un hobby.
Et partir en tournée, ce serait vraiment trop.
Non, mais j'en rêve la nuit.
Vous avez jamais joué en dehors de Toulouse,
si.
Quand même. Mais en mode. Ah ouais.
Si, mais.
On a joué à Bordeaux deux fois et on a joué une fois dans un festoche organisé par des potes en Ardèche.
On a joué en Ariège aussi.
On a joué en Ariège.
L'Ariège
est semi-profondé. C'est une vraie tournée, quoi. Là, c'est une bascule dans ça. Une autre dimension, quoi. L'Ariège.
Mais même, en fait. Tu vois. Mais juste aller en Ariège, tu sais pas à quel point ça nous a fait kiffer.
Juste prendre la voiture,
Prendre la voiture pendant deux heures, là. Et dire, ah, vas-y, on va faire un concert, on va dormir dans une roulotte. On était trop contentes. On était aux anges. Et nous, on veut faire ça tout le temps.
Et avant de continuer, on peut peut-être se passer un morceau de votre playlist.
Oui.
Donc, écoutez, choisissez, puisque vous en êtes un peu responsable.
Si on a parlé de faire dans l'ordre, on a parlé de la culture Riot Girl et tout.
Bah vas-y, hein.
On ferait pas le petit White Boy de
White Boy Kill. Ouais, ça me semble le choix le plus judicieux.
Ouais. Cette chanson est dédicacée à tous les white boys qui composent.
On a choisi.
C'est pas un...
Vous avez choisi quoi?
White Boy de Bikini Kill.
Bikini Kill, d'accord.
Ouais, parce qu'on parlait un peu du Riot Girl.
Ouais, carrément.
Bonne introduction.
Trop bien. Donc c'est le numéro combien? C'est comme au
restaurant.
La numéro 2. Bon, ben alors on va peut-être, on doit avoir ça quand même. Le numéro 2.
Cool. I don't think it's a problem because most of the girls ask for
it. How do they ask for it?
The way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. But some gung-ho that you butt rock your face is walking down the street. They're asking for it, and they deny it, but it's true.
Et vous pouvez peut-être expliquer pourquoi ce morceau? Parce qu'il a toute une histoire, je suppose.
Il résume tellement bien tout,
ouais,
en fait.
Il est très synthétique, efficace.
C'est clair, net, précis, concis.
Ouais,
clair.
C'est quoi le titre? Qu'on comprenne un peu de quoi. Le titre qui parle de lui-même, c'est ça?
White Boy.
White Boy, ouais.
Mais et le refrain, c'est White Boy, don't laugh, don't cry, just die.
Et genre. C'est d'une efficacité.
Et l'intro de ce son, c'est en fait, je crois
Ah oui,
que...
ah ouais, l'intro, elle est parfaite.
Le son, il pourrait juste durer le temps de l'intro et c'est une espèce d'interview d'un... Enfin, c'est, je crois que c'est Kathleen Anna qui parle à un mec, du coup, la chanteuse de Bikini Kill. Et il lui dit, bah, en même temps, il y a tellement de meufs qui demandent, en fait. Et elle dit, attends, comment elles demandent? Ils font, bah, je sais pas, la manière dont elles agissent, la manière dont elles s'habillent. Et après, le son commence là-dessus, et ça, c'est...
Parce qu'en fait, elle leur boucle le bec, littéralement, mais en chanson. Mais mémé, je dis pas d'insultes.
Ouais.
Et du coup, elle leur coupe la parole. Parce qu'on laisse pas le mec finir son explication désastreuse. Et du coup, mais ça fait trop du bien. Parce que quand on entend quelqu'un dire ça, mais tu vois, t'as envie de lui gentiment. Enfin, voilà quoi. Du coup, mais elle le font. Et du coup, c'est pour ça que ce morceau il est trop satisfaisant. Parce qu'il commence avec ça. Et il finit en mode de juste décède. Et c'est la meilleure chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui dit
perso, j'ai découvert Bikini Kill avec ce son. Et j'ai cru que j'allais crever tellement j'étais contente qu'il y ait quelqu'un qui. Enfin, qu'il y ait des meufs qui se sont organisées pour créer ça, en fait. Waouh. Je savais pas ce que je ressentais avant d'écouter ce son. elles me l'ont dit à ma place.
D'ailleurs, ouais. Puisqu'on est entre nous, vous avez une blague misandre.
Une blague misandre.
Ouais.
Ah, ouais, j'en ai une.
Ah, vas-y.
Combien d'hommes 6 faut-il pour changer une ampoule?
Je sais pas.
Un seul, il place l'ampoule et il attend que le monde tourne autour de lui.
C'est beau! Elle est pas mal.
Merci Norchine Misandry, big up les coups.
Pas mal.
Ah, on aurait dû préparer des blagues misandres.
Ah, mais ouais, si grave. Tu nous avais dit, on aurait fait une feuille à 4.
Si on peut vous envoyer des blagues misandres sur vos téléphones avant la fin de l'émission, comme ça.
Ouais,
n'hésitez pas.
N'hésitez pas.
Nana,
c'est misandrie. Comme on dit, c'est open misandrie.
C'est ça. On a un camarade.
Auquel
okay,
les frérots. Zitoun, tu fais le postier.
Vas-y.
Ouais, attends.
Zitoun fait la com.
Et moi j'ai une fille qui a votre âge,
que vous connaissez, Lila.
Voilà, que vous connaissez. Et donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a une super conversation cet après-midi sur le punk, entre autres, et plein de choses. Et elle avait une question pour vous. À partir du moment où vous avez décidé de faire un groupe punk, est-ce que vous ne considérez pas ça pour vous comme une nouvelle naissance? Et cette idée de se constituer une autre famille, différente que sa famille nucléaire. Et à partir de là, faire que cette famille, ce soit vraiment un soutien.
Mais en vrai, sûrement. Mais moi, je trouve que quand j'ai rejoint Trolls, de manière totalement au hasard, parce que Ziggy, on était très amis, et elle m'a dit, mince, on a besoin d'une bassiste. Moi, j'étais bassiste, hein, et j'étais vraiment devant elle, en mode... elle avait oublié, donc merci Ziggy, je t'aime très fort. Donc au final, elle m'a dit, bon, ok, ben vas-y, on teste, machin. Et quand j'ai rejoint ça... moi j'étais féministe parce qu'on m'a élevée dans le féminisme machin, mais j'avais jamais partagé ça avec des copaines et de mon âge, beaucoup fort comme ça, parce qu'on travaille dessus, puisqu'on fait des textes machin, et puis pour faire ces textes on doit parler de nos expériences sur ça. Et du coup ça fait meute, je trouve. Parce que t'as ta meute, genre c'est l'endroit où on peut discuter de absolument tout et en faire quelque chose, tu vois. Parce que tu vois, il t'est arrivé une crotte. Bah, tu dis, ok, bah, je discute, du coup, bah, ça fait du bien de pouvoir discuter avec des gens ultra safe. Et ensuite, bah, si t'es énervé, si t'es triste, bah, tu peux en faire quelque chose. Et tu peux dire, bah, oh, aujourd'hui, les filles, je suis vraiment, vraiment très vénère, venez juste, on hurle. Et elle me dirait pas non, hein. Mm-hmm. Elle dirait grave. Et d'ailleurs, on le fait des fois, juste. On répète, on fait rien, juste. Sure, ouais. On fait n'importe quoi, on crie. Mm. Et c'est trop bien.
Je sais pas si je dirais que c'était un lieu de naissance, mais de renaissance plutôt. Mm. Où, personnellement, il y a eu plein de moments dans ma vie où je me suis demandé où elle était ma place, qui j'étais, ce que je foutais là, pourquoi j'existais, en fait. Et les réponses qui sont multiples à ces questionnements-là, je les ai beaucoup trouvées dans mon épanouissement dans Trolls. Notamment un moment, en fait, où
Ben, on en parlait tout à l'heure en fumant une clope avec Ziggy devant la radio, en fait, où on se disait, mais heureusement, en fait, on n'était pas au courant qu'on en aurait autant besoin dans notre vie au moment où on a décidé de monter ce groupe. Et personnellement, j'ai une relation très compliquée avec un mec très, très... un gros con. Et ça a été vraiment... Troll, ça a été vraiment le lieu dans lequel je me suis retrouvée, ou même le long de la relation où j'étais avec lui. C'était ma seule pause, en fait, dans la semaine, où je pouvais être bien, où je pouvais être tranquille, où je pouvais être moi-même. Et c'est qu'après ça que je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pas... Enfin, que j'étais vraiment reconnaissante qu'on existe ensemble, en groupe, en fait.
Mmh. Ouais, c'est ça, au début, on était dans la naïveté de se dire « on fait de la musique, c'est cool ouais. ». Et on est entre nous, et on est copines, quoi. Mais comme elle disait tout, heureusement qu'on a gardé ce truc-là, parce qu'on en a eu besoin plein, plein de fois, et même sans s'en rendre compte, ça nous a hyper aidés. Je pense que je pourrais pas citer tous les moments où ça a eu le rôle d'une famille pour moi, parce que je vais pas y penser, mais je suis sûre que ça a été le cas plein de fois, quoi.
Ouais, c'est parce que ça dépasse le simple cadre de la musique. Le punk, c'est toujours un peu plus sérieusement. Tu parles du côté solidaire, camaraderie, d'entraide, de soutien. Et d'ailleurs, je repense toujours à Krav Boka, mais ça... J'ai toujours l'impression que là, c'est hyper émouvant et touchant ce que tu disais, et que cet équilibre, il est quand même hyper fragile, et il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre avec le groupe, quoi. C'est-à-dire que ce soit pas aussi uniquement une béquille quelque part, tu vois.
C'est un
peu ce qui se pose comme question.
Et c'est même un truc où on se demande, même avant chaque répète, comment vous allez, chacune, on se demande ce qu'on a fait de notre semaine et tout. Et des fois, on peut passer 25 minutes à la pause clope à juste parler. Je sais pas s'il y en a l'une d'entre nous qui va pas bien, on parle de ce qui va pas, et après, on fait de la musique. Et c'est un exutoire en plus de la communication verbale qu'on a eu avant. Et c'est vrai que, ouais, et c'est trop cool, et c'est sain, je trouve.
Je pense que c'est super important d'avoir ce moment de discussion et tout, parce que en soi, jouer de la musique ensemble, c'est aussi une forme de vulnérabilité et de communication qui est super forte et super unique. Donc on est quand même, enfin c'est quand même bien de se sentir super à l'aise les unes avec les autres.
C'est ça. Ouais. Mais surtout quand on compose, quoi.
Ouais.
Parce que faut accepter de faire des trucs ultra moches, tu vois, faire des notes super fausses, de pas savoir les paroles, de faire n'importe quoi et genre si on se fait pas, si on se connaît pas bien, enfin si on se fait pas confiance et tout, ça donne moins bien, parce que faut être totalement free de genre de dire tiens, on va essayer ça, ça a rien à voir, ça a rien à faire là, mais on va essayer. Et si tu te sens pas safe de faire ça, PK tu marres, toi.
Big up à Naïmi, on t'aime.
Ah mais j'étais sûre que Naïmi nous sauverait.
Ah non, si c'était route.
Vas-y, donne.
Incroyable. En caps lock en plus. Donc. Un homme cis hétéro va à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il donne? Son avis.
Pas mal. Naïmi du Canada, tu nous fais marrer, quoi. Incroyable. Ah, mais c'est pas grave.
Tu veux dire qu'on est écouté au Canada, là?
Oui,
ouais. Ah ouais.
Au Québec.
Big up le Canada.
Nous envoie des super blagues misantes.
Oui, d'ailleurs, bonne preuve aussi que même en dehors du groupe, il y a Naïmi par exemple, on fait plein de gros bisous.
Ouais.
Là, elle est en train d'écrire son mémoire sur les médias dans la culture Riot Girl. Et en fait, plein de potes avec nous qui font pas forcément de la musique avec nous, avec plein de potes, on s'est créé ces lieux et ces espaces dans lesquels on pouvait communiquer. Et je pense que c'est un peu aussi beaucoup partie de notre découverte collective du mouvement Riot Girl.
Ouais, ça englobe pas que le groupe au final, la famille. Quoi.
Ouais, c'est une communauté.
Il pourrait y avoir 8 personnes ici.
Un crew.
Ouais. Ouais.
La Delphité, c'est joli quand même. Hein.
Ouais, de ouf. Ça fait plaisir.
Donc, vous avez mis des cibles sur les hommes cis blancs, si j'ai bien compris. Et je voulais revenir sur l'âge, parce que, comme je l'ai expliqué, j'ai une fille de votre âge. Et je voulais savoir quelle était votre vision, en fait, des personnes plus âgées, en fait, dans la scène, qui traînent encore dans la scène. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez ça un peu bizarre, chelou? Est-ce que...
Non.
Je dis ça parce que moi, à mon âge, quand j'avais votre âge, il y avait des gars plus âgés qui traînaient. Je trouvais ça trop bizarre. Donc...
Ah ouais,
pourquoi?
Ah voilà, bonne question. Mais je...
C'est vous qui pose une question.
Ouais, pourquoi je trouvais ça chelou? Parce que j'avais l'impression... qu'on vivait pas la même chose. Moi, j'avais tout un imaginaire autour de ce que j'étais en train de vivre, parce que j'étais ado, en fait, tu vois. Je me disais, mais eux, ils peuvent pas percevoir le même truc, tu vois. Et donc, je trouvais ça étrange. Le fait de voir des vieux comme Steph ou moi...
Mais moi, je trouve ça pas étrange, hein. Enfin, moi, vraiment... Il me pose pas de problème à part quand ils viennent nous expliquer la vie, quoi. Ah,
voilà, c'était la fin de ma question.
Voilà.
Est-ce que vous sentez de la condescendance, par exemple?
Après, ça dépend de qui, parce que des fois, c'est toujours cool d'avoir des témoignages de, je sais pas, de gens qui ont vécu des trucs que nous on pouvait pas vivre parce qu'on était trop jeunes. Genre des concerts, par exemple, des rencontres avec des groupes, des découvertes de groupes, des sorties d'albums, des
même
trucs
qui ont eu des groupes dans les années 80, j'en sais rien, tu vois, mais.
Et puis les copines aussi.
Grave.
Qui sont super contentes de voir que il y a des personnes de 20 piges qui continuent le combat qu'elles ont commencé aussi un peu, donc
et qui nous accueillent, qui nous ouvrent des portes, et qui nous soutiennent, et enfin moi j'ai toujours trouvé ça trop chouette.
Franchement, après forcément il y a des idiots, mais...
Ah, des gros bouffons. Il y a des gros bouffons qui ont 19 ans.
Hein, c'est ça. Enfin, genre,
c'est pas une question.
J'ai pas noté plus de condescendance de la part des anciens que des jeunes.
Bah, des fois, les mecs de...
C'est parce que... Mais ouais, mais genre, t'as vu, je suis désolée, mais... Enfin, le gars, enfin bref, il y a plein d'affaires. j'ai même pas les cités, sinon on y passe la nuit. Hein. Mais enfin, moi, j'ai eu autant de... Oui, parce que la basse, on m'embête beaucoup. Ils aiment pas ça. Hein.
Mais pourquoi?
Ah, parce que je sais pas.
Parce que c'est lourd.
Ouais, on m'a fait rire. Alors, top
le
réflexion.
Le poids de la basse, c'est ça?
La basse, c'est trop lourd. Ouais. T'as des trop petites mains. Du poids médiator, du coup, ça ne peut pas marcher. Ah, en fait, tu en vois. Est-ce que tu t'en es sorti avec mon ampli? C'est une grosse bête. Alors, c'est un ampli, frère. Il y a vraiment, genre, volume.
T'arrives avec les réglages, ça va ou tu m'en fais pas?
Il y a même, on m'a déjà changé mes réglages sans me prévenir. Ou les ingé-sons qui me disent t'es sûr de ton son? T'es sûr? Et une fois, du coup, Thomas de Krav Buka m'a sauvé parce que le gars il insistait vraiment pour que je change mon son. Et il y avait Thomas à côté de moi, et il était là. Il me regarde, il fait tu l'aimes bien ton son? Je dis oui. Il fait du coup, elle aime bien son son, c'est bon. Et quand il lui a dit c'était bon, hein,
c'est trop Krav Buka, on prend la grosse.
Ouais désolé.
C'est fini pour Krav Buka là.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, donc forcément, il y a des petits moments où on se dit bah. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste des moments cool et plein d'apprentissage pour nous, en fait, de rencontrer des personnes qui ont vécu plus, parce que nous, on est quoi? Ça fait 3 ans qu'on est là, on sait rien. Et
même
du coup,
ces
personnes, dans le milieu militant, même, c'est super intéressant de pouvoir discuter avec elles, quoi.
Même, c'est trop intéressant, rien que... Bah, encore big up à Nona, qui est photographe de concert, et qui monte des concerts à l'ancienne Dynamo de tel groupe qu'elle a vu... Moi j'étais au collège, donc clairement j'étais pas à ce concert à la Dynamo. Et j'aime trop qu'elle raconte ses anecdotes et tout.
Je parlais de ma parentalité, je voulais savoir, parce que vous étiez ok, en tout cas d'en parler tout à l'heure, ce que vous pensiez de vos parents par exemple, de cette activité.
Vous savez qu'ils nous écoutent là tous.
c'est pour ça.
Qui veut commencer?
À qui le tour?
Pour moi, il n'y aura pas grand chose de...
Ton père, il nous aide beaucoup quand même.
Mon père, il nous aide beaucoup. Je pense qu'il écoute sans me le dire.
Il est là depuis tout le début.
Et qu'il est là depuis tout le début, machin. Il va pas m'en parler, mais je pense qu'il doit le dire à ses copains. Un peu en secret, mais je pense. Ma mère, elle en parle à tout le monde.
c'est génial.
Peut-être un peu trop.
C'est vrai que Facebook...
C'est ta première fan.
Ouais. Ses potes connaissent, je pense, le nom de mon groupe, mais ils savent pas quelles études je fais, par exemple. Mais tant mieux, parce que je préfère mon groupe que mes études. Du coup, les deux pensent pas du tout la même chose. Enfin, je pense qu'ils pensent tous les deux la même chose, mais ils l'expriment pas de la même manière. Après, ils vont pas venir m'étouffer avec ça, ou ils vont pas s'en foutre complètement non plus. Donc ça va... Moi, ça me va très bien. Il y a mon petit frère qui n'a jamais venu voir un concert encore.
Mais qui adore déjà.
Mais oui.
Mais qui adore déjà et qui viendra quand il pourra.
Coucou Fabio.
Mais voilà.
Bah ouais, mes parents, ils kiffent plutôt pas mal ça.
Ils nous avaient jamais dit.
J'ai déjà envoyé quelques sons et ils m'ont dit qu'ils kiffaient bien. J'ai eu de la chance. Quand j'étais enfant, on écoutait pas mal de rock et de trucs comme ça dans la famille. Donc je pense qu'ils m'ont quand même assez influencé sur mes goûts musicaux. Même si on écoutait quand même beaucoup Indochine aussi. Et ouais, voilà, je suis rassurée sur le fait que, je sais pas, peut-être pendant mon adolescence et quand j'ai grandi, je me suis pas trop sentie rassurée par eux sur le fait que je pouvais faire de la musique sérieusement et, et vraiment faire un métier ou quelque chose de sérieux, quoi. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu refroidi ou un peu fait perdre confiance en moi. Et du coup, voilà, c'est un truc que j'aimerais bien leur prouver aussi, que c'est du sérieux et que j'y tiens beaucoup aussi.
Bah, moi, franchement, ma maman, je t'aime, elle est pas très musique et elle m'a toujours dit qu'en cours de chant, on la faisait taire. Et du coup, bah, elle aime pas trop la musique. Enfin, elle aime la musique, mais elle a pas beaucoup d'affection pour ça. Mais elle adore le féminisme. Du coup, elle adore que je crie et que je hurle des choses avec mes copines. Et elle adore, enfin, elle aime trop, enfin, genre, elle les invite tout le temps à manger. Enfin, vraiment, elle est trop fan de l'idée, en fait. Et elle veut venir nous voir en concert. Et elle en parle à ses copines, comme ta mère. Vraiment, c'est. Genre, elle fait, oh, ma fille, elle est dans un groupe de mec. Voilà. Du coup, elle comprend pas tout. Mais en tout cas, elle m'a toujours soutenue sur ce côté-là. Enfin, elle m'a jamais dit genre, oh, prends du temps pour ça, machin. Enfin, quand ça, c'est même avec mes autres groupes, elle m'a toujours rassurée quand ça se passait pas bien. Elle m'a toujours félicitée quand j'étais contente de quelque chose. Donc ça, j'ai toujours été soutenue de ce côté-là. Et mon père, lui, c'est un vrai zikos, mais pas du tout punk. Vraiment pas du tout. Du coup, quand je lui ai dit que je faisais du punk, il était un peu en mode, ok, bon, soit. Et quand je lui dis que je fais du punk féministe, il a pas trop compris. Et parce que, ben, en fait, il était pas trop dans le féminisme et tout. Mais après plusieurs conversations, et que je lui ai montré que ben, le féminisme, on en avait encore besoin. Parce que ça, c'est une croyance assez populaire que c'est bon, vous avez à peu près les mêmes droits que nous, c'est bon, cassez pas les pieds. Mais bon, en fait, il y en a encore besoin. Donc à partir de là, ben je pense que concrètement... niveau, je peux pas aller deux fois plus, hein, je suis tatoueuse, hein, clairement. J'ai déjà un travail qui est pas stable, j'ai fait des études d'art, donc bon, que je fasse de la musique, je pense que... J'ai déjà touché le fond du trou, donc c'est... désolé, hein, je serai pas médecin.
Sur le dossier,
c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, voilà, quoi, c'est pas grave. Donc, ouais, non, franchement, moi, j'ai pas eu de problème, enfin, on m'a jamais dit, arrête de faire ça, quoi. Moi, souvent, enfin, on m'encourage plus qu'autre chose.
Mais pour l'instant, c'est pas en réaction, donc là, c'est pas... Vous avez pas fait ça en réaction, pour l'instant, genre la forme d'autorité que peuvent présenter les parents. En tout cas, enfin, pour les
en tout cas, nous,
vous trois, pour l'instant.
Non,
quoi.
Nous trois, non.
Moi, j'ai mis du temps à leur dire. J'osais pas leur dire quand j'étais au lycée ou quoi. J'avais peur qu'ils soient pas d'accord. Enfin, qu'ils aient peur que ça m'éloigne de mes études ou quoi. Parce qu'après, le punk, mes parents, ils y connaissent rien. Du coup, je pense qu'ils s'en faisaient aussi l'idée... qu'on lui donne dans les médias en général un truc de dégénéré qui prend de la drogue et on peut pas leur en vouloir parce que si t'écoutes pas de punk et que tu t'y intéresses pas et que t'as personne autour de toi qui en écoute, l'idée que t'en as c'est ça. Et du coup je l'ai d'abord dit à ma mère et elle était contente parce que voilà, enfin elle était contente que j'ai trouvé un truc qui me plaise et tout, mais elle pensait pas que ça durerait aussi longtemps et que ce serait aussi sérieux. Et mon père, c'est ma mère, en fait, qui lui a dit. Moi, je voulais pas lui dire, parce que En fait, j'osais pas le dire aux gens de ma famille, parce que je savais pas trop comment ils allaient le prendre. C'était trop important, leur avis. Du coup, j'ai un peu peur. Et ma mère, elle a tellement bien réagi. Et un jour, c'était à l'Aïd. Du coup, on était dans la voiture pour aller chez ma tante, pour faire la fête avec la famille et tout. Et du coup, mon frère, il fait du son aussi. Et il avait fait un remix d'un chant religieux, musulman. Et du coup, il avait fait écouter à mon père, parce que c'était un chant que mon père nous chantait quand on était petits, qu'on n'arrivait pas à dormir et tout, du coup c'était tout mignon. Et mon père était là, ah, trop bien, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et là, ma mère, en fait, elle a mis un son, elle a mis Clito Killer sur Bandcamp, et elle m'a pas prévenue. Et elle a dit, alors, t'en penses quoi? Et mon père, il fait, elle crie un peu trop la chanteuse, mais elle chante bien et tout. Et genre là, ma mère a fait, mais couillon, c'est ta fille. Et il a, ah bon? Et du coup, il est en train de conduire, du coup, il a pas trop capté. Et après, il dit, ah, mais tu fais du punk. Et du coup, on a un son Solidarité Zéro qui est sur une compile de punk international féministe. Et le vinyle, il est sur le buffet du salon. Et qui se trouve. Et mon père, du coup, vu qu'on a pour plan de faire pour projet de faire un son en arabe, il est trop chaud de m'aider à écrire des paroles en arabe parce que mon vocabulaire en arabe est pas assez large pour pouvoir le faire toute seule et tout. Donc au final, je pense que si je leur avais annoncé quand j'avais 16 ans, ils l'auraient moins pris au sérieux. Ils seraient dit, attends, tranquille, calme-toi, pour pas que je me fasse trop d'idées. Mais là, je pense qu'ils sont un peu à fond. Peut-être qu'ils nous écoutent d'ailleurs. Salut, je vous aime. Mais voilà.
Ta mère est venue te voir en concert
ou... Ouais, elle nous a vus. Un super concert. On avait joué avec Sponti et Krav Boca. Ouais. C'était
au Poum, c'est ouais. possible, c'est ça.
D'ailleurs, bah, du coup, avoir ma mère là-dedans, c'était trop drôle. Ah, ça devait être... Et elle a bien kiffé, et elle a pleuré, du coup j'ai pleuré, elle était trop émue.
On a tous chialé.
Non, moi j'ai pas chialé.
Elle m'a envoyé un message qui a fait, mouche. Je cite, c'était trop cool, trop fière de vous. Vous êtes trop badass, j'avais envie d'éclater des faf et des machos en sortant. J'étais en mode, ok maman, vas-y.
C'est ta mère qui dit ça.
Ouais, la mère.
Ma mère, elle parle de manière crue et j'adore, mais du coup.
Ouais.
C'était super.
Ah, ce concert, c'était mémorable.
Ouais. Pour l'anecdote, c'était aussi la première fois que
c'est
je
vrai.
Voyais...
Oh
c'est vrai.
J'étais dans le public.
Oh mais oui, c'est vrai que tu nous avais envoyé sur message sur Insta quand on recrutait. Et tu m'as dit oui, on t'a vu, enfin, vous a vu, machin. Et c'était trop mignon d'ailleurs ton message. On était à la piscine en plus. On était toutes ensemble. On était là, oh, regardez.
Et ce détail est important.
Ah oui.
La piscine, je pense que mais ça non, fait tout, toute l'anecdote.
En fait, on était vraiment toutes ensemble, genre le crew dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait tout le petit crew et du coup tout le monde savait qu'on cherchait une batteuse ou un batteur. Et du coup, quand on a reçu ton message, on était beaucoup trop contents. Ça a sauté de joie. Hein.
Ils n'étaient pas du tout stable.
Ouais, il y a Zitou qui a failli mourir. Attends, mais en fait.
C'est technique, c'est les. Ouais. On peut peut-être écouter un deuxième morceau de votre playlist avant de parler des paroles.
Alors, on a parlé de quoi de
On a parlé de.
Après Bikini Kill,
on pourrait mettre
ce que vous voulez. Hein.
Je coûte très bien la 5.
La 5, c'est vrai.
C'est Indochine ou.
Ouais,
non, pas aujourd'hui.
Si on met la 5, on fait un big up du coup au copain de Judy Judah.
Ah, ouais, c'est
un groupe français,
ça, ouais.
Bordelais ouais. avec qui on a joué.
Et
avec qui on va rejouer.
Rejouer, c'est
sûr. Et on les aime fort, fort, fort. Et on leur fait plein de poutous partout.
Allez, c'est parti pour Judy Judah.
In other magazines, they enjoin us to be thin. In other magazines, they enjoin us to be nuns or naked. In other magazines, they enjoin us to cook well and be sweet. But in all these magazines, we just see lies, let us tell what we think.
Toxic love.
Judas. Et le titre du morceau, c'était Our Bodies, Our Choices.
On se fait un instant blague ou...
Coupure blague.
Alors, on a eu quelques blagues de Madame Isor.
Isor, on t'aime. Alors, quelle est la différence entre une cravate, une ceinture et un homme 6? La cravate serre le cou, la ceinture serre la taille et l'homme 6 ne sert à rien.
Ouais,
on a dit Harry pour elle parce qu'on l'a dit tout à l'heure.
Ouais.
On a spoil le fun.
Ouais.
Donc c'est vrai que le thème récurrent, comme ça, c'est malgré tout de crever le patriarcat. Je crois que c'est à peu près clair.
Je suis pas sûr.
Non, je sais pas.
Par quel moyen peut-on crever le patriarcat alors?
Oh, la question
compliquée. Truc qui tue. C'est le cas de le dire.
Je pense qu'en fait, il y en a beaucoup des moyens, mais que comme ça persiste vraiment fort, il faut vraiment tous les utiliser en même temps et à petite dose. Tu vois, enfin, on peut pas tout faire d'un coup. Faut accepter que... Enfin, tu vois, on fait ce qu'on peut. Donc déjà, avoir un groupe en parlant de nos expériences et en... Enfin, tu vois, par exemple, sur la scène punk. Parce que t'as le patriarcat sur la scène punk, t'as le patriarcat dans ton travail, dans ta vie privée, dans ta famille,
dans la rue.
C'est ça. Et du coup, chaque patriarcat nécessite une force d'intervention spécifique. Tu vois, pour le patriarcat, genre dans la scène punk, eh ben, avoir un groupe avec pas de 6 mecs dedans et où on parle de nos vies et de ce qu'on a vécu et de comment, enfin, de fight against et de réserver cette scène-là à des personnes qui le subissent, eh ben, ça peut être déjà un truc à faire. Puis après, ben, chez toi, je sais pas, ben, faire, ou alors l'article Mediapart, par exemple, la scène punk. Ça, c'est un truc qui aide aussi. Mais du coup, ben, dans la rue, c'est pas pareil. Enfin, tu vas pas dire un mec qui t'embête dans la rue, eh, va lire cet article Mediapart. Mais tu peux lui dire d'autres trucs. Donc, enfin, faut adapter. Et en fonction de ce que tu peux faire aussi, parce que des fois, on peut pas tout faire, quoi. Et c'est fatigant.
Ouais, t'as pas envie de le faire aussi.
C'est ça, on n'a pas que ça à faire non plus, tu vois.
Bah, on peut mettre des grosses patates, on peut éclater des gueules, on peut gueuler, on peut insulter, on peut manifester. Mais je pense que le plus important, en premier lieu, c'est de se solidariser le plus possible.
Ouais, clairement.
Et de créer une adelphité la plus inclusive et la plus large possible. Parce que je pense que toute seule, on n'y arrivera pas, quoi.
Mmh. Même pour se préserver, tu sais.
Ouais,
mais ouais, parce que sinon, on peut être un plomb.
Et je pense que ça peut et doit se faire dans l'ordre et qu'on peut pas tout brûler tout de suite et qu'on peut pas tout péter tout de suite. Même s'il y a des moments, sur des moments anecdotiques, on peut le faire, on a envie de le faire. Mais je pense qu'avant de tout cramer et recommencer, faut d'abord qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on partage aussi, qu'on guérisse de certaines choses. Et voilà. Mmh.
Donc la mort du patriarcat se fera avec plusieurs personnes, ensemble. Tout seul on pourrait faire.
Ouais, tu parles un peu d'intersectionnalité, c'est ça, des luttes
Ouais, et puis comprendre aussi que du coup la fin du patriarcat doit aller avec la fin du capitalisme, la fin du racisme, la fin des LGBT-phobies, la fin de plein de systèmes d'oppression qui sont tous entreliés. Et ouais, le patriarcat est malheureusement pas tout seul, quoi.
Il y a des potes.
Ce petit con.
Il a plein de potes. Il est venu en famille, quoi.
Oui, que ça divise pas les luttes, mais au contraire, ça fait des passerelles.
C'est ça. Chose que beaucoup de cis-mecs trotskars de mai 68 ont du mal à comprendre.
Parce qu'ils subissent pas de discrimination, en fait.
Ah,
donc ils ont le temps d'attendre, en fait, la plupart de... Souvent, c'est ça, quoi.
Et puis il y a ce truc aussi, je pense que... Enfin, il y a deux phases très, très prenantes au problème. C'est que d'un côté, on a un féminisme qui s'inscrit pas dans une visée révolutionnaire. Et je pense que collectivement, on pense que c'est un réel problème. Notre féminisme, il se doit d'être révolutionnaire, il se doit d'être anticapitaliste. Et de ce fait, antiraciste, anti-milice, anti-armée, anti-police, anti-homophobie. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui luttent contre le capitalisme et qui pensent qu'en pensant faire tomber le capitalisme avec un effet domino, il y a toutes les oppressions qui en découleraient, qui vont tomber aussi du tout au tout. Et donc, plutôt compliqué de s'y retrouver. Ouais, c'est chiant.
Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de temps, de temporalité. C'est-à-dire, tant que tu ne te prends pas dans les dents trop d'injustice ou... T'as le temps d'attendre, en fait, la révolution, quoi.
T'as le privilège de l'attendre.
Exactement. Alors que pour plein de personnes, c'est maintenant, faut lutter maintenant contre le racisme, parce que tu subis le racisme. Moi, j'ai pas attendu la révolution pour plus subir de racisme. Enfin, dans cet ordre d'idée, de se réapproprier les luttes, et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est parfois de se réapproprier les insultes. Ouais. C'est vrai que vous êtes un peu là-dessus, dans les textes. Ouais. Toi, t'hésites pas à dire des insultes ou... Désolé, Simone. Non, mais c'est intéressant. Je voulais savoir si tu as été à l'aise rapidement, tu vois, avec ça, ou il a fallu un peu te faire violence, entre guillemets, tu vois.
Moi, je pense direct à Crève le patriarcat. Il y a une phrase qui dit « Je ne suis qu'une salope souillée ». Crève le patriarcat, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a écrite quand même vachement collectivement. C'était parti d'une idée de demander à des meufs un truc qu'on leur avait dit qui les avait dérangés par rapport à leur genre. Et la première phrase qu'on m'avait donnée, c'était une pote à la fac qui m'avait dit « La manière dont t'es habillée, c'est indécent ». Et du coup, la première phrase de la chanson, ça a été « Indécente pour la manière dont je m'habille ». Et il y a tout qui s'est fait comme ça, en fait. Et puis, il y a le grand mythe de la salope, en fait. Le grand mythe de la salope qui nourrit tellement d'aspects du patriarcat et qui est tellement utile au patriarcat, qui est lui-même intrinsèquement lié aux discriminations que vont subir les travailleurs et travailleuses du sexe. Et où en fait ce serait c'est une ignominie en fait d'aimer le sexe sur le même plan que les hommes, et c'est une ignominie en fait d'avoir des rapports sexuels, et c'est une infamie de pas en avoir non plus, parce que si t'en as pas t'es une espèce de pauvre petite prude, et si t'en as t'es une grosse pute. Et le truc c'est que en fait au début j'avais cette idée aussi très putophobe plus jeune, où je pense un peu tous toutes, parce qu'on a tous toutes grandi avec ça, de se dire ah non moi je suis pas une pute, attends je me respecte. Et puis en fait au bout d'un moment, moi je crois il y a un jour, et c'était une fois dans la rue, où un type m'a traité de qahba, ça veut dire pute en arabe, et je l'ai regardé, je fais ouais je suis une pute, y a quoi, je suis une grosse pute, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et le mec il m'a regardé comme ça, il savait pas quoi répondre. Ok si tu veux, je suis une pute, mais qu'est-ce que ça change en fait? Genre qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de me traiter de ça? Et pourquoi tu me traites de ça en fait? C'est toi qui es en train de me sexualiser, c'est toi qui es en train de m'objectifier, c'est toi qui es en train de me dire que t'as envie de me faire telle chose, telle chose, telle chose, qui sont toutes à caractère sexuel, sans une seule seconde te poser la question si moi j'y consens ou pas d'entendre ce genre de choses. Donc ouais, je suis une grosse pute, mais toi t'es quoi alors? Qu'est-ce que ça fait de toi? Et questionner ce genre de truc, se réapproprier cette insulte-là, ça fait du bien, mais comme plein de trucs. Enfin, ma petite sœur et moi, et même mon père avec ses potes, des fois... on s'appelle sale bougnoule. C'est rigolo, nous on trouve ça drôle. Parce que moi quand j'étais petite, je l'ai entendu sale bougnoule sérieusement sortir de la bouche de certaines personnes. Et ça m'a fait mal en fait. Et je me suis dit, par rapport à ça, en tout cas, si je le dis avant eux, ils se sentiront trop cons pour le faire. Ouais. Donc voilà, hein, ça peut marcher avec plein de choses.
Clouage de bec à la zitoune. Non mais vraiment,
je fais ça bien.
Mais Sandra, tu parlais du monstre tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, je trouve. Quoi.
Ouais, il y a un truc de réappropriation. Ouais, vraiment, le fait de mettre en avant ton côté monstrueux, et ça avant les autres, ça leur enlève le pouvoir de le faire, et c'est super fort. Ouais.
Puis c'est quand même beau de voir un 6 mec se sentir con, quoi.
Ah, de ouf.
Et on va... c'est beau, j'adore.
C'est sympa, ouais.
J'en mangerai au petit-déj, quoi.
D'ailleurs, les paroles sont méga violentes. Je voulais savoir si vous aviez eu des réactions, je dirais, du même ordre, c'est-à-dire violentes, des gens vraiment qui ne comprenaient pas et qui se sentaient agressés perso. Parce que c'est toujours ça, les mecs se sentent agressés perso. Tu parles à une foule, mais le gars, il le prend pour lui, souvent la plupart du temps.
Le premier concert à Cava Rock, c'était compliqué.
C'est passé mal sur plein de points. Ouais. Ça en était un.
Okay.
Mais même pendant le concert, en fait. Hein.
Ouais, c'était...
Et où après, le mec qui venait nous voir. À Bordeaux aussi, une fois, on a joué, il y a un mec qui est venu nous voir.
Ouais, qui s'était mis torse nu.
Qui s'était mis torse nu pendant le concert et qui on s'est embrouillé aussi.
Ouais. Ouais. En gros, la première fois à la Cava Rock, il y avait eu un gars qui avait pas apprécié, qui avait un concert. Du coup, c'était organisé. C'était quelle asso déjà?
C'était les Wonder Sisters.
C'était Wonder Sisters. Et du coup, il y avait les copains et tout. Enfin bref, c'était très très cool. Et du coup, lui, comme ça lui a pas plu, il s'était dit vas-y, je vais venir avec une brique.
Ouais, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu
une embrouille. Même en dehors de cette histoire, il y a juste eu des mecs qui étaient contre l'idée de pas en dehors de ce mec-là.
Même après toi, il y avait plein de mecs qui étaient. Parce que du coup, ouais, comme Zitoun chante, Zitoun prend tous les.
Mais ouais.
Du coup, ça vraiment, c'est une posture.
Focus, quoi.
Voilà. Du coup, à chaque fois qu'un mec, parce que c'est souvent des mecs cis en fait.
Ah, il y a eu beaucoup de meufs aussi.
Ouais, il y a eu des meufs.
Il y a eu presque autant.
Et du coup, genre, en fait, je crois que. enfin ce jour-là il y avait eu plein de trucs qui étaient enfin je sais pas, les gens ils avaient pas compris, je crois,
c'était notre premier concert.
C'était notre premier concert,
les gens nous avaient jamais vus, ils connaissaient pas. On avait demandé à ce qu'il y ait toutes les meufs et les personnes queer devant, ça avait pas été trop fait.
Ça avait fait du
tout. Donc il y a plein de mecs qui se sont dit oh là là, j'ai plus le droit d'être devant.
C'est ça. Il y a plein de mecs qui se sont agressés.
Ou même du coup oui, des meufs qui sont en mode ah non mais
pourquoi mais c'est mon mec, c'est comme en manif en fait.
Oui, en manif, au skatepark, partout.
C'est partout, c'est mon mec, il est avec moi, du coup moi je peux pas mettre devant, bah si tu peux, mais lui non. Mmh. Ou alors, mais il est gentil, mais moi je suis avec vous, mais moi je suis féministe et on a droit à tout, n'importe quoi.
Mais comme dans tous les milieux et dans toutes les pratiques.
C'est ça, et encore c'est les plus soft, ça peut aller jusqu'à plus violent, qui est là, qui nous insulte en fait, qui s'énerve.
Qui comprennent pas et qui veulent pas faire un effort pendant une heure de concert. Quoi. Une heure, je suis gentille, on joue une demi-heure.
Ouais, on jouait 25 minutes.
C'est ça, c'est comme le gars, du coup à Bordeaux, il y avait un gars qui avait enlevé son t-shirt. T'es un homme cis, il avait chaud, il enlève son t-shirt, il se pose pas la question.
Et surtout, mais le pire, c'est que dans l'organisation du concert, en fait, dans l'event et sur l'affiche, il était précisé.
Ouais, tout était.
Te mets pas torse nu. Genre, c'est adressé aussi, mec, te mets pas torse nu. Et avec en dessous un petit texte que les organisateurs, organisatrices étaient fait chier à écrire, avaient pris du temps à écrire pour expliquer pourquoi en fait on voulait pas avoir de mecs cis torse nu. Parce que ça impliquait que, en fait, quand nous on le fait, on est en danger de mort, mais eux ils peuvent le faire tranquille et c'est un espace dans lequel on n'a pas envie qu'ils fassent ça. Et tout ça c'était précisé. En fait, on prend le temps de l'expliquer, on prend le temps de l'écrire doucement, tranquillement.
Ouais.
Et ils sont pas capables de lire trois phrases. Bah tant pis pour eux, ils se font têche, je sais pas.
Donc ça me fait penser donc à ce fameux article donc sur les violences sexistes et sexuelles dans la scène punk, puisque là vous jouez a priori dans la scène punk et malgré tout.
On l'attendait beaucoup depuis un moment. Et bah, c'était nécessaire.
Ouais.
Et ça a brisé un truc dans la scène, surtout à Toulouse.
Ouais.
Mais ça a brisé pour que ça se reconstruise mieux, je pense. Et il y a plein de gens qu'on voit plus en concert. Moi, je m'en porte très bien. Des orgas qui n'existent plus, des groupes qui n'existent plus. Bah, c'est pas grave. Parce que...
Mon débarras.
Ouais, et ça ouvre des portes à des nouvelles orgas de concert, à des nouveaux groupes, peut-être. Je sais pas encore. C'est peut-être un peu tôt... que c'est un peu la reprise, mais enfin moi ça c'est quelque chose que j'attendais vraiment beaucoup et je suis très contente que bah, grâce du coup à Claire Chazal sur les réseaux, c'est elle qui a un peu lancé ça. Il y a eu un effet boule de neige de plein de personnes qui se sont rendues compte de ce qui leur est arrivé et je trouve ça hyper chouette qu'il y ait eu un article qui fait les choses bien. En plus Mediapart a un peu cette image de ils font pas les choses à moitié, du coup les gens peut-être le prendre au sérieux et tu te rends compte de plein de trucs et ça, enfin, par exemple avec Zitoun, notre premier concert de métal c'était Dagoba et je sais pas si tu vois, il nous est arrivé un truc pas cool et on s'est rendu compte que ça nous arrivait parce que des copines avaient organisé un théâtre forum sur les agressions sexuelles et sexistes.
C'était Big Girl Crew.
Et c'était, c'était un fanzine à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelle. Oh là là.
C'était Big Girl Crew.
Big Girl Crew.
Big Up Girls,
Big Up Girls, ouais, c'était ça. C'était le nom du fanzine.
C'est Mélanie, non
Peut-être, il y avait Nona aussi dedans. Et elles avaient fait un théâtre forum où elles expliquaient des situations qu'il y avait en concert. Il y avait une situation en mode. Un chanteur qui est en mode t'es trop bonne, tu veux rentrer avec moi à l'hôtel, je sais pas quoi. Et là, on s'est regardé avec Zitoun, on s'est dit, mais merde, ça nous est arrivé en fait. Ouais. Et l'article, il sert à ça en fait. Ouais, il sert à se dire, waouh, ça m'est arrivé aussi, c'est pas normal.
Ouais, poser des balises, c'est ça.
Et on s'est rendu compte, en fait, ça nous a. Sur le moment, on s'est regardé avec des yeux, mais je saurais même pas expliquer. Enfin, c'est limite, ça me donne envie de chialer d'y penser parce qu'on était. On avait 16 piges, quoi. Et on s'est regardé en mode, attends, je crois que. Parce que le chanteur de Dagoba, il nous a dit que c'était pas normal, en fait. Et parce qu'il m'avait dit, t'as des sacrés loches, je sais pas quoi. Moi, c'est tout innocent, je m'étais mis en débardeur, parce que dans le mosh pit, j'avais trop chaud. Et on était devant la salle, on attendait le père de Luna pour qu'il vienne nous chercher. On était des gros bébés, en fait, on rentrait même pas tout seul. On attendait que son père vienne nous chercher. On bouffait des chewing-gums, pour pas sentir la clope. Enfin, tu vois, où il sait, quoi. Et puis le type me dit ça, et avec Ziggy, on le regarde, et il me fait... T'as quel âge? Et je lui fais, j'ai 16 ans. Il fait, c'est pas grave. Ah non, je lui fais, j'ai 15 ans, parce que j'avais 15 ans. Il fait, c'est pas grave, ce soir, j'en aurai 16. Et après, on était là en mode, oh, popopo, le chanteur de Dagoba, machin, trop stylé, il voulait nous amener à l'hôtel. Et en fait, après, on s'est rendu compte, mais non, c'est pas trop stylé, c'est pas normal. Parce qu'il y a un mot pour qualifier ce qui se serait passé si on l'avait suivi. Et ça aurait pas été stylé, ça aurait pas été cool. Et ça aurait pas été une petite fête, une petite after-party avec le groupe, quoi. Ça a bien mis une tarte, mais...
Donc il faut nommer, c'est important. Ouais. Enfin, il faut dire le nom des groupes, des mecs, et vous n'avez pas de...
Ouais, ouais.
Enfin... Ah oui, oui.
c'est pour leur faire comprendre que la peur elle change de camp, on les voit, on sait.
Et même pour te protéger, pour protéger les autres, de dire ah ouais, si ce mec-là te propose un after, je crois qu'il a fait ça en fait, donc il n'y va pas en fait. Et si tu n'as pas, tu peux pas savoir en fait qui t'a en face de toi et qu'est-ce qu'il a fait quoi. Donc ouais, c'est hyper important de nommer.
Et si au moins une expérience traumatisante pour nous peut servir à protéger d'autres personnes, au moins que ça serve à ça quoi, que ce soit pas juste une expérience traumatisante. Et c'est aussi autour de ça qu'on construit une adelphité. Moi il m'est arrivé ça et j'ai pas envie que ça reste figé dans le temps, en mode il m'est arrivé ça et c'est tout ce qui me définit. On en fait quelque chose, on en crée quelque chose à partir de ça aussi.
Même si au fond tu souhaites que tu sois la seule à qui ça soit arrivé, parce que t'as pas envie que d'autres gens l'aient subi, quand tu te rends compte que d'autres gens l'ont subi, tu peux faire un effet de groupe et même pas avoir besoin de parler, que quelqu'un parle à ta place ou que quelqu'un dise un faux blase pour pas que toi tu t'affiches par contre. Enfin, il y a besoin d'adelphité, comme on dit depuis le début en fait. On a besoin d'être en groupe pour se protéger et protéger les autres.
Et la non-mixité, ça peut être aussi
truc. Ça participe à ça.
Ouais. C'est très important. C'est beau, c'est libérateur.
Ouais. Tranquille, c'est tranquille.
Ah ouais. Franchement, on a eu la chance de faire qu'un seul concert en mixité choisi sans Mexis être, du coup. Enfin, nous, on avait compris sans Mexis. Du coup, on avait
20 minutes avant, on envoie des messages à tous nos potes. En fait, tu peux venir,
Et franchement, mais en fait, même le truc qui était fou, c'est que même à la technique, il n'y avait pas de Mexis hétéro.
La balance.
On t'a pas fait de
Bah, en fait, on m'a laissé.
T'as rien dit sur ta basse, ton son, tout ça. Non.
Et puis, j'avais pas peur de moi poser les questions sur la chose que je ne sais pas plein de choses.
Bah, on n'est pas technicienne.
Je n'ai pas technicienne. Et c'est normal de pas savoir tous les branchements. C'est super compliqué, c'est un boulot.
C'est pas comme si ça faisait
10 ans. Bah oui, non, mais bien sûr.
Et du coup, là, tu peux dire, excuse-moi, tu peux m'expliquer ça et avoir des vraies réponses sans te faire. Sans avoir peur de passer pour la petite meuf qui sait rien.
Ou pour un noob, quoi.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était tellement, une respiration, genre, c'est trop important, genre.
Merci d'ailleurs aux personnes qui...
Ah ouais, vraiment, c'était... Mais on leur a déjà dit, mais je réitère, c'était incroyable. Et vous êtes merveilleux et merveilleuses. Incroyable. Genre, la patience, c'était trop bien. Enfin, juste... En plus, c'est fou parce que quand tu reviens dans un autre concert sans ça, tu fais, oh, c'est vrai, mince. T'as la réalité, te rattrape un peu. Mais ouais, ça, dans la lutte, c'est super important pour qu'on puisse... Mais encore une fois, communiquer ensemble et communiquer de manière honnête et sans risque, en fait, et sans peur. Parce que on sait qu'il n'y a que des personnes qui sont safe. Et ça, c'est trop important, en fait.
Ou même sans ça, même dans le groupe, on a eu un mec dans le groupe.
Ouais.
Et rien qu'en répète, la différence, elle est giga énorme. Genre, moi, je sais que je me sens vachement moins jugée. Que je vais plus me lâcher, que je vais pas être en mode oh là là, faut pas que je fasse trop de la merde.
Quand on faisait une faute, c'était il avait une faute, et c'était super viril. Il y avait un truc super viriliste de devoir jouer le plus vite possible, le plus fort possible, le plus truqué, le plus machin. Et en fait, il est où le fun dans. Enfin, c'est quoi que tu crées à part regardez, j'ai un gros zi. Bah, fou en fait.
Même pour parler de trucs qui te sont arrivés et genre être à l'aise en mode j'ai envie de faire une chanson là-dessus, mais c'est. J'ai pas envie d'en parler.
N'importe quoi. Ce petit con, il voulait juste faire de la oi, c'est tout.
Okay.
C'est cool là, oui. Je vais pas faire que ça, mais...
C'est cool là, oui. Bon, on peut s'écouter de vos titres, et puis on enchaînera avec une dernière série de questions.
Allez. From all the patriarchy, but you should have to be stuck in this world. They say, grow a dick and you'll succeed.
c'est une reprise de Bikini Kill, on fait vraiment
Rebel Girl.
Ah, pas Rebel Girl tout de suite.
Donc c'est, le titre c'était Clito Killer. Si les trolls c'est un syndrome, alors qu'est-ce que ce serait? Alors ça c'est une question, alors vous êtes un peu surprise, hein, je sais bien par la question, mais je pense que vous avez répondu.
On a pas trop eu de mal à trouver en vrai. Non, on s'est dit qu'on serait le syndrome de finir notre set trop tôt. Ouais. Ou en tout cas de faire des sets trop courts, parce qu'on est assez d'accord sur le fait qu'on n'a pas assez de chansons et que nos concerts durent vraiment... pas assez longtemps.
C'est vrai sur ta fin, quoi.
Et les gens sont d'accord pour le dire aussi.
Ouais, apparemment. On est généralement assez frustrés, et nous aussi, parce qu'on a quand même juste le temps de se chauffer. Et
ouais.
C'est fini.
Et c'est déjà fini, ouais. Mmh.
Du coup, voilà, ce sera ça, ouais.
Mais on y travaille.
Okay. On y travaille.
Promis, on va essayer de comprendre.
La dernière fois où vous vous êtes mise en danger.
Ah, c'était quoi déjà?
On s'était dit qu'on se mettait en danger à chaque fois qu'on passait sur scène.
Ouais.
Aussi. Parce que c'était ça qu'on
s'était dit. Oui, il me semble.
Que, avec les choses qu'on dit et les choses qu'on essaie de porter, qu'il y avait forcément des gens qui n'allaient pas être d'accord et qui allaient un peu péter un plomb et que.
Mais c'est pour ça qu'on parle du premier concert.
Ouais,
ça s'explique dans ma tête. Ouais, là on s'était mis en danger. Mais ça...
Enfin, on s'était pas forcément mis en danger. Enfin, c'est toujours quelqu'un qui décide de mettre en danger.
Oui, c'est plutôt ça en fait.
C'est juste que, de par nos paroles et nos actions, on peut potentiellement être en danger. Mais on se met pas en danger dans le but où, genre, en allant sur ça, on se dit pas, oh là là, peut-être qu'on se met en danger, tu vois. Mais genre qu'au final, avec le recul,
en réaction,
et en vue des gens qui peuvent venir nous voir et tout, potentiellement, on peut être en danger des fois.
Ouais, on demande pas à l'être, quoi.
C'est ça. Qu'on l'est, genre, nous, on a pas envie du danger, nous, on aime bien les trucs tranquilles, hein.
Ça se passe bien.
Ouais, trucs safe, cool.
Sinon, maintenant, il y a Pruno qui nous protège.
Oui. C'est ça.
Ah,
ouais, faites attention, maintenant, on a un chien.
Arrobas Prune le chien.
C'est déjà pris. Et quel son insta.
Alors, et la dernière fois où vous avez dit non?
Un concert où on a refusé de jouer.
Ouais.
Ah,
ouais. On nous a. Alors.
C'est
le seul concert qu'on a refusé par principe.
Ouais.
Alors, c'était un crew de skate toulousain qui s'appelle le Doody Crew qui nous a contacté par message pour nous demander de jouer pour une date qu'il prévoyait où il voulait faire des concerts, du coup. Il y a un contest de skate, je crois, un truc comme ça. Et ça nous posait problème, nous, parce que c'était une orga uniquement composée de 6 mecs. Dans laquelle il y avait beaucoup de 6 mecs problématiques, et même juste qui portaient en tant qu'orga, genre dans leur contest, le nom de leur prix, pour pas citer les infamies qui mettaient en titre. Mais bref, c'était vraiment. En fait, on voulait pas, on s'est même pas posé la question plus que ça, on s'est dit non, en fait.
Ouais.
Et puis, la réponse que l'un des membres du crew m'avait dit, puisqu'on s'était croisés en ville et qui était là, pourquoi non, du coup? Et j'avais dit gentiment, en fait, nous, on n'est pas chaud, c'est pas en accord avec nos principes politiques. Donc, merci de nous avoir proposé, c'est gentil, mais on le fera pas. Et il avait vachement pris la mouche, il avait pas kiffé. Il m'avait dit, ouais, mais tranquille, c'est que de la musique, ça va être chill et tout. Et je lui expliquais que, justement, c'était bien ça le problème, c'est que nous, on faisait pas que de la musique. Et que, du coup, dans ce sens-là, on se voyait pas jouer pour des personnes qu'on considérait à l'encontre de ce qu'on essayait de porter, justement, dans notre musique. Bon, ça s'était pas super bien passé à la fin, il était pas content, et il est parti sur son skate, mais on n'a pas regretté une seule seconde notre décision.
Non, clairement,
et on a dit
c'était
non.
Pas possible en fait. Ouais. Même quand on a vu le message, j'ai rigolé.
Ah, même j'ai pas compris pourquoi on nous l'a proposé en fait. Genre, frérot, pourquoi?
Ah, il se considère comme un tout petit peu féministe, c'est genre, mais tout petit peu, non.
Mais je pense que des fois c'est facile aussi de proposer,
des gens qui font du skate aussi, hein.
Oui,
ouais.
Mais je pense aussi pour ça.
Ouais.
Je cherche des groupes avec des skateuses dedans. Et
ouais.
Parce que Ziggy et Claire Skate,
nous deux, je pense que c'est le seul lien qui nous rejoignait à eux, c'était juste ça.
Ouais, c'est ça.
Moi, je les avais croisés en soirée aussi. Avant, ils m'avaient dit, ils avaient eu des grandes pensées sur le gauchisme.
Ah ouais, mais.
Enfin, il y en a un, du coup, qui m'a dit, ouais, moi j'ai lu Mein Kampf pour la culture quand même. Genre, attends, frérot, doucement.
Ma culture de quoi? Bref.
Voilà notre dernier nom.
En plus.
Voilà.
T'es tout content.
Sinon, tous les noms, c'est vraiment des noms du genre. Oups, non, je peux pas. J'ai un planning. Genre, je travaille, je fais des études. J'ai la diarrhée pour ma part. Mais
C'est un vrai.
Alors moi, je suis, j'ai un handicap de mon intestin. Alors j'ai la diarrhée, et je pète. Ok, et c'est vraiment handicapant et j'en ai aucun problème avec ça.
Ok.
Okay. Mais du coup, des fois, je peux pas aller en concert parce que je suis malade à la mort.
Smecta, peut-être ou...
Non, mais en fait, c'est vraiment une maladie auto-immune de mon intestin et de mon estomac qui fonctionne pas. Okay. Tu vois, genre, le smecta, je le bois comme du petit lait quand ça ferait rien, quoi.
C'est pas le stress ou...
Ah non, 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 non.
Mais
non,
pas
non.
Du lait, parce que le lait, du coup, tu...
Ouais, non, mais... Mais non, mais du coup, oui, c'est moi le... J'ai pas trop de tabou sur ça, désolé si je saute les auditeurs.
T'as raison.
Mais s'il te plaît, arrêtez le validisme des gens qui font caca partout, c'est bon. Genre, mon handicap, il gêne personne, en fait. C'est bon, voilà. Laissez-moi tranquille.
Alors, la dernière fois, vous vous êtes déçu vous-même par, je sais pas quoi, une pensée ou un acte
Ouais. Chaque fois que quelqu'un nous demande d'écouter nos soins.
Ah non, surtout pas ou...
Non, mais est-ce que vous avez un disque et un...
Ah, mais si vous avez rien, en fait.
Et qu'on a un Bandcamp et qu'on répond... Que... Sinon, on a un son sur le compil Solidarité Zéro, ouais. Je pense que ce son-là trop saigné. Ouais.
Enfin, juste, bien, on a rien de... Tu sais, genre, en live... On fait des trucs, on est trop contente et on fait plein de choses. Et après, quand les gens ils veulent voir un truc, genre, tu sais, on a que un vieux live d'il y a 2 ans.
Il y a encore un Retinage dessus.
Mais ouais, enfin, et en plus, même, il n'y a plus nos nouvelles musiques dessus. Mm. Puisque voilà, et puis, genre, c'est enregistré au mieux. Mm. Vraiment au mieux. Merci. Mais ça reste un live. Voilà, c'est vraiment enregistré au mieux parce que franchement, vu le live, franchement, c'est bien calé. Donc, merci pour ça. Mais. Là, ça fait quand même 3 ans et on a que ça à présenter. Mais encore une fois, on s'y attellera bientôt.
Ouais, objectif.
Voilà, mais du coup,
c'est un truc, quoi, alors.
On va sortir les doigts.
Ouais, on va sortir les doigts. Franchement, ouais.
Ah mince, c'est une bêtise, non? Pourquoi je dis ça? Non, pour Simone, j'ai dit un gros.
T'as dit quoi? T'as dit sortie de. Oh, pardon, mémé. Elle retire, elle voulait dire fesses.
Bah alors, la dernière fois, vous êtes trouvé trop badass et fier.
C'est dit quoi ça? Notre dernier concert?
À la Cave à Rock.
Ah non, à la Cave à Rock. Ouais.
Concert le 2 octobre.
Ah ouais.
À la Cave à Rock. C'était vraiment super bien parce que le public était génial. Ouais. Vraiment, elle chantait les paroles avec nous. Ouais. Il y avait plein de meufs, de personnes queer qui étaient devant.
C'était.
Et,
on n'a même pas eu à le préciser, les gens ont installé le Girls and Queers.
C'était comme ça, quoi.
C'était trop bien. C'est vrai que les gens connaissent un peu la musique aussi.
Mmh. Oui,
tu vois une ligne de gens devant qui connaissent.
Cool, c'est ça, du coup, tu vois des gens devant toi, ils chantent les paroles que t'as écrites. Mmh. Et...
Il y avait ma petite soeur et ses potes, et j'étais en mode. Mais c'est la relève.
C'est ça, c'était trop bien ça comme concert. Parce que... Et en plus, on avait eu des mauvaises balances, du coup, ça nous a fait trop bien. Ouais, on avait eu des balances pas faciles, on était toutes super stressées parce qu'on avait eu des balances pas agréables. Et au final, genre quand on est arrivé, on a vu toutes les copaines devant, genre, mais c'est bon, tranquille en fait, c'est ça, genre hyper cool en fait. Genre, et c'était incroyable, et c'était trop bien. Et on était toutes très très contentes de cette.
On a bien dormi après. Hein.
Ah, ça a dormi sec, mais on était vraiment, genre quand on est sorti, on s'est toutes regardées, on était là. C'était cool quand même, on était contents. Ouais.
Il y a aussi ce que tu disais, la meuf qui était venue te voir à Roumanie dans les victoires. Enfin, c'est pas la dernière du coup, mais.
C'est arrivé plusieurs fois, mais il y en a une. Enfin, après, ce qui est cool, c'est que vu que je suis la chanteuse, je me prends tout dans la gueule quand c'est négatif. Mais les gens, quand ils ont des trucs positifs, souvent, je pense qu'ils viennent plus facilement vers moi et après je transmets. Ou alors j'en chope une au vol en mode attends, nous parle, viens par là et tout. Mais il y a une fois, il y a une personne qui était venue me voir après un concert à Ramonville et qui m'avait dit t'as quel âge? Et je lui ai dit j'ai 18 ans. Et me fait les autres de ton groupe, elles ont quel âge? Je lui ai dit Claire a 19 ans, sinon on a toutes 18 ans. Et elle a commencé à pleurer et me dire mais vous avez 18 ans et vous faites ça. Moi j'attends de vous voir plus tard et elle m'a expliqué qu'en fait elle avait 47 ans et qu'elle était juste trop fière de voir qu'il y ait des jeunes en fait qui se saisissent de ce genre de choses, qui parlent de ce genre de choses dans leur musique. Elle était trop contente et il y a plein de fois aussi il y a des personnes qui sont venues me voir en pleurs en mode merci d'avoir fait ça et ça du coup moi chaque fois je chiale comme une madeleine et du coup c'est adorable. Et du coup, même des gens qui ont pris mon contact pour parler de certaines choses qu'ils avaient vécues après le concert, en mode... qu'on remarque que ça a créé justement cette solidarité dont on a besoin, en fait. Cette espèce de guérison collective quand on chante ensemble, quand on est en colère ensemble. C'est beau.
Oui,
c'est plaisir d'y participer, en tout cas.
De ouf.
C'est un honneur. Voilà.
C'est ça. Ça, c'est trop.
Ouais, notion de guérison collective, je trouve ça classe, quoi. C'est... La dernière manif. Ouais, vite fait, si...
Bah nous, c'était la Pride.
Ouais, avec okay. Claire, on est allé à la Pride.
Ah, c'est génial de le considérer comme une manif, remarquez, pas que ouais, comme un bah, truc festif. Vraiment, alors, ouais, non, bien sûr, respect.
Ouais, c'est pas que écouter de la pop et se mettre à poil, c'est aussi contestataire et se montrer aussi, encore une fois, comme on est.
C'est ça, c'est juste, ok, on est là, en fait, on existe. Et même si la Pride, c'est... on l'a encore vu cette année, c'est comme ça tous les ans. Il y a vraiment un public sur les côtés qui te regarde passer comme une bête curieuse, comme un monstre, le fameux.
Les gens qui te filment.
Les gens qui te filment. Ah, okay. Et genre, franchement, c'était cool, mais il y a toujours des trucs comme ça. Il y a beaucoup de personnes cis-het dans la Pride qui sont en mode avec leur drapeau, en mode wouhou.
Machine à fumer,
tu sais, le gros camion,
juste aussi,
c'est ça, le gros camion qui fait du son, et des gens qui viennent juste écouter le son en oubliant que c'est la Pride, quoi.
Ouais, c'est même pas des alliés, je veux dire.
Ouais, tous les ans, tu vois le cortège radical s'amincir.
C'est ça.
C'est un peu triste.
Et du coup, voilà, donc nous, c'était ça.
Bah, c'est cool de repréciser que c'est une manif et un truc, effectivement.
Voilà.
Alors, la dernière fois, vous avez crevé le patriarcat.
C'est quand les gens viennent te voir en disant merci.
En tout cas, c'est la preuve que t'as fait un petit truc.
Ouais.
Sinon, à chaque fois que... À chaque fois que tu réponds à un mec et que tu lui fais peur, moi, c'est le genre de truc qui m'aide à dormir la nuit, de me dire, peut-être que lui, il va pas oser le faire à quelqu'un d'autre, parce qu'il a vu que dans mes yeux, j'allais le tuer, le noyer dans le canal du midi, mais c'est pas grave. Pas trop en parler de ça.
T'as des étoiles dans les yeux. Vous pouvez pas voir, mais c'est vrai.
Attention, hein,
c'est ça. Mais en fait, on le fait un peu tous les jours. Hein. Ouais. Et moi, je pense que j'ai bien tué le patriarcat parce que j'ai réussi à trouver un lieu de travail où je suis pas avec des mecs cis. Je suis entourée que de meufs.
T'es tatoueuse, c'est ça.
Ouais. Et du coup, d'ailleurs, c'est aux écorcheuses, meilleur salon de Toulouse. Et je vous aime. Et genre, j'ai enlevé d'une grande partie de ma vie quand même le travail, c'est quand même beaucoup, mais cette influence du patriarcat, et ensemble, tout ensemble, tous les jours, on rage contre eux. Et du coup, c'est trop cool. Donc, j'ai déjà éliminé les hommes 6 de mon lieu de travail. Et du coup, c'est quand même une petite victoire. c'est un truc de fait.
Essayer d'apprendre la misandrie à ma petite sœur de 8 ans.
Ah ouais.
J'ai une petite sœur de 8 ans, et moi, ma grande sœur et mon autre petite sœur qui a 18 ans, on essaie de lui apprendre que les hommes 6, bof. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie. Et elle a 8 ans, et elle est persuadée qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie. Et ça c'est trop bien.
Voilà, je
t'aime. Je t'aime aussi, Kenza.
Allez, toute la famille. La grande famille. Moi, j'ai qu'à dire Théo. C'est fini. On a fait le tour.
Donc on va bientôt conclure. Et je voulais aborder un dernier point, mais qui permettra aussi pour vous de dire tout ce que vous avez à dire, si vous avez des trucs à dire. Dans le manifeste là de Bikini Kill sur le Riot Girl, il y a une des, je sais pas comment on dit, pas des lois, c'est pas une loi, quoi.
Des maximes.
Comment tu dis, des maximes? des principes du mouvement Riot Girl, qui expliquent, parce que je crois de tout mon cœur, esprit, corps, que les filles constituent une force spirituelle révolutionnaire qui peut et changera le monde pour de vrai. Mmh. Et toi, dans Clito Killer, à un moment, tu parles aussi de pouvoir des femmes qu'il fallait détruire.
Ouais.
Et je voulais savoir ce que ça pouvait représenter, cette dimension spirituelle, ou c'est quelque chose de plus, je sais pas, moins politique ou personnel.
Par rapport aux paroles, c'était par rapport au fait que... Je pense que toutes les merdes qu'on se prend dans la gueule au quotidien depuis notre naissance, nous les meufs, les personnes queer aussi, c'est ça nous plombe jusqu'au jour où on arrive à en faire une force et un pouvoir, en fait. Moi, personnellement, sur scène avec Isor avant, puis Sandra, Claire, Ziggy, enfin, je me sens puissante et j'ai l'impression d'avoir le pouvoir de faire quelque chose, rien que pouvoir parler dans un micro, taper sur un instrument ou quoi. C'est juste je considère que c'est un pouvoir, et aussi de pouvoir réfléchir collectivement à ce que j'ai envie d'en faire, de tout ce qu'on m'a fait dans la vie. Toutes les choses qu'on m'a faites avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je considère que c'est un pouvoir aujourd'hui de pouvoir me dire, ok, là j'étais pas d'accord, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça arrive pas à quelqu'un d'autre, que ça arrive pas à mes sœurs, que ça arrive pas à des gens que j'aime. Tout ça, enfin, toute cette force qu'on construit ensemble, pour moi, c'est un pouvoir. Et je pense que les six mecs, notamment dans la scène punk, ils ont peur de ce pouvoir-là. Ils ont, bah, et on l'a vu avec les réactions qui ont été générées par la sortie de l'article Mediapart. En fait, ils ont peur qu'on utilise ce pouvoir. Et donc, ils essayent de le tuer dans l'œuf dès notre enfance, avec tous les principes sexistes qu'on nous fout dans la gueule. Et il y a une... Il y a une nécessité de se réapproprier ce pouvoir et de se rendre compte qu'en fait on est puissant, on est puissante, qu'on peut faire absolument ce qu'on veut justement bah, de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, notre spiritualité, notre sexualité, notre être en fait et de notre existence, mais que cette existence-là elle pourra pas s'inscrire dans quelque chose d'individuel et que ce pouvoir-là il pourra pas s'inscrire dans quelque chose d'individuel sinon on rentre dans les mêmes logiques virilistes de pouvoir qui existent depuis la nuit des temps en fait. Et je trouve que le pouvoir qu'on s'approprie en groupe, bah, par exemple avec Trolls, ou même en dehors de ça, dans nos cercles d'amis, ou juste dans des sphères féministes, c'est le plus beau des pouvoirs qui puisse exister, et le plus puissant et le plus fort. Parce que moi, je sais que quand je vais pas bien, j'ai une copine, ou deux copines, ou trois copines, ou 15 copines que je peux appeler, et qui lâcheront tout ce qu'elles sont en train de faire pour venir m'aider, et moi, je ferai la même chose pour elles. Et ce qu'on voit comme vulnérable... ce qu'on accorde au genre féminin en général et qu'on voit comme vulnérable, par exemple le fait de parler de ses émotions, de communiquer, de trucs de machin, bah pour moi c'est la plus belle des forces parce que c'est tellement créateur de tellement de choses et moi je me considère forte et je nous considère forte et je considère chaque personne là aujourd'hui avec qui je fais de la musique comme forte et comme puissante et c'est un pouvoir qu'on a créé ensemble et qu'on continuera de créer ensemble parce que ce sera jamais acquis et ça on nous le fait comprendre tous les jours, ce sera jamais acquis mais ouais je me suis un peu perdue dans les choses que je voulais dire mais ouais la notion de pouvoir elle est importante parce qu'elle nous appartient et elle est tout aussi importante parce qu'on essaie de nous la retirer à chaque fois en fait ouais. Et à chaque fois qu'on essaiera de nous la retirer, ben on l'imposera deux fois plus. Attention, hein.
C'était un bon mot de la fin.
Tu as un talent. Rien à
ajouter. Non, mais pareil. Hein.
Ouais, je pense que faut s'arrêter là.
Je pense aussi.
Non, vraiment.
Ouais, ouais.
Là. Ben, merci en tout cas d'être venu et
merci
d'avoir répondu
à
quelle invitation.
Merci.
C'était
Coucou
super
Steph.
Cool.
Et ouais, un immense merci.
Merci beaucoup.
Et puis vivement les prochains enregistrements et puis.
Promis, ça arrive bientôt.
Ouais, parce que on était déjà venus dans cette radio. Et dit, vous reviendrez pour la sortie de l'album, t'es là.
Oui, oui.
Et on est revenu.
Ça va, il y a eu le Covid entre temps.
Ouais, et c'est pas facile. Hein,
voilà. Un dernier truc à rajouter, un dernier big up, coucou.
Joyeux anniversaire, Polly. Merci de faire tout ce que tu fais.
Et de prendre le temps de le faire avec le courage qu'il faut.
Nous sommes honorés de te connaître.
Bon ben super, on va conclure cette émission. C'était la
705e.
700 et quelques, ouais. Carrément. Ouais.
C'est ainsi que s'achève la numéro 705 David Ordure. On se retrouve dans deux semaines si tout va bien. D'ici là, restez meuf et queer to the front, Adelphité et espace safe. Je dirais que... Allez, bisous. Check. I'm on.
boat.
Vous voyez des gens en bleu, vous courez vite.